There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'actualité tennis. Et je suis bien accompagnée, évidemment, d'Arnaud Di Pasquale. Salut Arnaud.
Salut Anne.
Ils sont tous les deux intarissables dès qu'il s'agit de tennis, de revers slicé, de service kické. Maxime Battistella et Laurent Vergne de la rédaction d'Eurosport.fr sont avec nous aujourd'hui. Salut à tous les deux.
Salut tout le monde, salut Anne, salut.
Salut.
Salut à tous et heureux de se retrouver à 4 puisque la semaine dernière on était 3.
On fait le plein, alors que le Masters 1000 de Shanghai, désormais programmé sur 12 jours, bat lui aussi son plein. Et nous avons pas mal de choses à débriefer, et notamment la nouvelle défaite de Stefanos Tsitsipas au troisième tour de ce Masters 1000, qui le met plus que jamais dans l'impasse. Pourquoi le Grec n'y arrive-t-il plus? Faut-il s'inquiéter? Ce sera notre débat du jour. On va rester à Shanghai pour évoquer ce calendrier assez illisible de la tournée asiatique, tant sur le circuit féminin que masculin. Il y aura également la Stade de Constance, notre partenaire de jeu 7 et maths, et l'œil de Deep pour compléter le programme sur un Français qui nous a fait plaisir à Shanghai. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous retrouverez également sur Eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. Premier jeu, première manche, Deep Impact, c'est parti. Alors avant de nous pencher sur le cas de Tsitsipas qu'on a évoqué, un cas qui ne semble pas vraiment s'arranger en cette fin de saison 2023, nous allons saluer quand même la performance de son bourreau à Shanghai parce qu'il est français et il a évidemment retenu l'attention d'Arnaud, c'est l'œil de Deep.
Ouais, en effet, Anne, écoute, des Français à l'honneur, donc Terence Hatman la semaine dernière dont on a parlé, et cette semaine, moi j'ai envie de mettre à l'honneur Hugo Humbert, de nouveau. Qui rejoue très bien. Je trouve qu'il rejoue juste, qui est une période de creux assez importante et qui va probablement, j'espère, prochainement réintégrer le top 30. Ça a pris du temps. Donc là, oui, il a battu Tsitsipas en 3 manches, donc un match au couteau. C'est gagné, remporté 7-5 au 3e. Surtout, la semaine précédente, il avait battu aussi Rublev 7-6 au 3e. Ce sont des victoires plus que convaincantes, très encourageantes pour la suite, qui montrent en fait tout simplement qu'il est revenu très probablement à son meilleur niveau. Et voilà, enfin, c'est évidemment le principe d'une carrière qui sont des hauts, des bas. Il y a eu vraiment, le post-Covid l'avait fait souffrir, il en avait parlé, il avait vraiment eu des difficultés à se remobiliser parce qu'il était perdu à un moment, il en parlait beaucoup, il disait que c'était compliqué, qu'il avait du mal à rebondir, sa motivation s'était aussi un petit peu éloignée. Et je trouve que là, on retrouve voilà, le Hugo Humbert avec plein d'envie, plein d'intentions, avec le feu qu'il a animé quand il était monté, je crois, 25e mondial à son meilleur classement. Donc, et puis surtout, là, il joue JJ Wolf, prochain tour, difficile, mais jouable pour aller en quart de finale, donc d'un Master 1000.
Oui, il a fait une bonne fin de saison avec en 3 mois une demi à Newport, à Atlanta, un quart à Washington et donc à Pékin où il bat au passage Rublev. Donc c'est vrai qu'on l'attendait ce retour de Hugo Humbert qui a traversé une phase difficile, mais là ça semble être solide. Ils aiment bien ces fins de saison nos Français, je pense à celle de Caroline Garcia l'année dernière qui avait été évidemment au top. Pour vous, Maxime, Laurent,
c'est... Ouais, c'est en fait ça fait très plaisir de revoir Hugo Humbert à ce niveau-là. On sait tout le potentiel qu'il a. Il a un tennis, quand il est très en confiance, comme en ce moment, très sympa à regarder. Patte gauche remarquable, un tennis offensif. Il va vers l'avant, il va vers le filet. C'est très, très bien de le revoir dans cette disposition. Et je trouve que ça récompense un travail de fond et une humilité qui le caractérise. C'est vraiment un joueur qui sait ce qu'il veut et qui sait où il veut aller et qui s'en donne les moyens. Je m'explique. Cette année, il a commencé la saison en dehors du top 100. Il a commencé par un troisième tour à l'Open d'Australie, donc c'était déjà un premier bon signe. Mais bon, c'était pas facile et il est passé par la Cash Challenger. Il a gagné deux Challengers. Il a fait une finale de Challenger à Pau aussi, tournoi dirigé par son entraîneur, son coach Jérémy Chardy. Et puis peu à peu, ces victoires-là ont infusé sur le circuit principal. Il y a eu aussi sa faculté à briller en Coupe Davis. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Il a fait ses débuts en Coupe Davis en février contre la Hongrie, où il a gagné ses deux matchs. Et puis là, en septembre, même si l'équipe de France n'a pas réussi à se qualifier pour le Final 8, il a gagné son match notamment contre Norrie dans cette ambiance surchauffée en Grande-Bretagne à Manchester. Donc toutes ces victoires-là lui ont permis de retrouver cette confiance qui est si difficile à retrouver. Très facile de la perdre, la confiance en tennis, mais très difficile de la retrouver. Et là, le revoir aussi brillant sur une fin de saison qui correspond en plus à ses qualités, puisque l'indoor va arriver, l'indoor européen va arriver. C'est très prometteur. On croirait voir un peu sa forme de fin 2020 quand il avait fait quart de finale à Bercy, justement. Donc là, il a une belle occasion de refaire un quart de finale en Masters 1000 et on y croit.
C'est le cercle vertueux, Laurent, de d'aller gagner des matchs qui sont disputés, comme ça a été le cas face à Tsitsipas, et d'arriver à faire la différence, justement, pour aller les remporter, ces matchs-là.
Ouais, c'est sûr que la confiance joue beaucoup. Il est quand même difficile à cerner, Hugo Humbert, parce on sait qu'il a un potentiel pour battre à peu près n'importe qui sur le circuit. On en parlera peut-être dans un instant avec la stat de Constance. Mais à côté de ça, il est capable de disparaître un peu pendant plusieurs semaines. Où est le vrai Hugo Humbert? Sans doute entre les deux. Mais c'est quand même. On peut me dire, Tsitsipas, c'est pas le meilleur Tsitsipas, c'est vrai. Mais tu n'enchaînes pas des victoires comme ça sur Rublev, sur Tsitsipas, par hasard, ça tombe pas de nulle part. Et t'as pas un bilan équilibré contre le top 10 au bout de 4, 5, 6 ans de carrière, par hasard. C'est qu'il est fait pour ces matchs-là. Et ça, c'est quand même très, très rassurant maintenant. Il faut qu'il soit un peu plus constant. C'est vrai qu'il a énormément progressé d'un seul coup au classement cette année, mais en prenant que des points sur les challengers. Donc, d'une certaine manière, ça posera tôt ou tard un problème la saison prochaine, parce qu'il va avoir beaucoup, beaucoup de points à défendre qu'il ne défendra pas. Il les défendra ailleurs en jouant d'autres tournois. Mais je le vois mal, tout le mal que je lui souhaite en tout cas, retourner sur le circuit Challenger au printemps prochain. Donc, ce sera forcément un peu bizarre, mais maintenant, il me paraît quand même bien installé. Je crois qu'à la race, je me demande s'il n'y est pas dans les 30. On parlait avec Laurent Raymond il y a 15 jours, l'entraîneur d'Arthur Fils, qui nous expliquait que. Un des objectifs de fin de saison pour lui, c'était d'aller chercher la place de tête de série à l'Open d'Australie, donc d'être dans les 32. Bah, je pense qu'il faut que ce soit pareil pour Hugo Humbert, c'est très important quand même qu'il arrive à être tête de série. Il serait quand même sympa si on pouvait avoir trois Français tête de série pour le premier grand chelem de l'année, Manarino, Humbert et Fils. Ce sera compliqué hein, quand même parce qu'ils sont plus. Enfin, Manarino est pas trop mal. Mais il y en a un qui n'y est pas encore, hein, loin de là, même Arthur Fils. Et il y en a un, Hugo Humbert, qui est quand même vraiment borderline. Donc ce serait pas mal s'ils pouvaient y arriver les trois là. Ouais.
Ils étaient deux déjà à l'US Open, deux têtes de série, donc c'était Manarino et Humbert. Et je pense que oui, il y a un vrai potentiel pour qu'il y en ait trois. Humbert, s'il gagne son huitième de finale contre Wolf, sera dans le top 30 après Shanghai. Donc voilà, il a ce qu'il faut, il a la forme qu'il faut pour y arriver.
Ouais, puis le dernier Masters 1000 est à Bercy.
Exactement.
Souvent, le Masters 1000, on a un Français ou deux qui tirent leur épingle du jeu. Si tu regardes les résultats, en tout cas ces dernières années, le meilleur résultat français en Masters 1000, il est quasiment toujours à Bercy. Hein. Toujours un qui arrive à aller en quart, deux ou trois en huitième. C'est pas invraisemblable hein, comme résultat. Puis si tu compares par rapport à ce qu'on a. À Shanghai, alors à Shanghai, ça se passe pas trop mal, mais sur une tournée américaine, Cincinnati, Toronto, etc. Globalement, c'est pas mal. Donc il y a peut-être aussi un petit bonus à aller chercher et des points à aller gratter, et des places aussi.
Ça permettrait de bien commencer cette année 2024, en tout cas, du du côté des tricolores. On a effectivement une petite stat de Constance, notre partenaire du compte Jeux 7 et Maths, qui illustre bien la force d'Hugo Humbert face aux meilleurs, puisque tu l'as évoqué, Laurent, parmi les joueurs en activité, Français est le cinquième joueur qui affiche un ratio de victoire positif ou neutre face au top 10, donc après pour lui 18 matchs disputés. Donc les noms auxquels, à côté desquels il figure, ce sont Raphaël Nadal, Carlos Alcaraz, Holger Rune et Andy Murray. Andy Murray qui a 50% de victoire comme Hugo Humbert. Donc 9 victoires, 9 défaites pour le Français face au top 10. Ça, c'est une sacrée stat quand même pour un joueur qui effectivement a montré parfois un peu d'irrégularité, mais qui figure parmi des sacrés clients là aussi.
C'est une sacrée stat parce que tu n'es quand même pas sur un petit volume, 18 matchs, c'est pas rien. Et là, il y a une anomalie quelque part. L'anomalie, c'est soit il surperforme dans ces matchs-là, soit il sous-performe le reste du temps. Et vu cette stat et avec qui il est, la compagnie qui est la sienne sur cette statistique, on peut se dire, ce mec-là, il devrait pas être 32e mondial. Il devrait être top 15, peut-être top 10. Mais en tout cas, il y a forcément quelque chose qui ne va pas par rapport à cette statistique. C'est un joueur qui est encore relativement jeune, donc ça donne quand même de l'espoir, je trouve, pour...
C'est hyper encourageant. Moi, moi, je trouve ça hyper encourageant de se dire qu'il est capable, justement, de répéter des exploits. On va parler, enfin, parce qu'on parle d'exploits quand on bat des joueurs de ce calibre. Et en même temps, quand tu disais, Laurent, il aura beaucoup de points d'avance parce qu'il est passé par la case Challenger et qu'il en a, donc il a très bien joué. En même temps, je trouve ça aussi très encourageant de rapidement gagner ces tournois qui sont très durs à gagner.
Oui, c'est vrai.
C'est aussi là. Mais en effet, dans cet entre-deux, c'est un peu bizarre. En effet, il n'arrive pas encore à stabiliser. Et c'est exactement ce qui lui manque. Mais je trouve qu'à 25 ans, enfin, c'est encore jeune, le fait de pouvoir aller très haut, de gagner quand c'est moins fort, c'est quand même la preuve que son niveau de jeu moyen, il se situe dans le top 30, quoi. C'est exactement ça. Moi, en fait, c'est vraiment le sentiment que ça me donne. Et je me dis que s'il arrive en effet, à continuer là, sur sa lancée, gagner confiance avec l'expérience maintenant de ces quelques années sur le circuit, il y a de bonnes chances qu'il puisse réussir à vraiment stabiliser maintenant un classement et ne plus justement avoir ses hauts, ses bas, et ça sera peut-être moins fluctuant. Mais je trouve ça, dans le fond, on ne peut que le prendre positivement, c'est hyper encourageant.
Ah, bien sûr.
Il y a une autre stat de Constance qui disait justement ce paradoxe-là, qui représentait bien ce paradoxe-là, qui disait que donc 50% de victoire sur le top 10 et sur tous les autres matchs, par rapport à tous les autres adversaires, 49,1%. Donc en fait, oui, il a de meilleures statistiques contre le top 10 qu'en général. Alors, c'est à relativiser ça aussi parce qu'il a eu une très mauvaise année 2022, où il n'a que 9 victoires pour 24, un truc comme ça, 22 ou 24 défaites, je ne sais plus, sur le circuit. Et je pense que c'était aussi dû à son Covid long qu'il a eu. Donc, je pense que c'est à relativiser. Mais c'est vrai que c'est un paradoxe intéressant. Et en grand chelem, il pêche, je trouve encore, par rapport aux promesses qu'il
il a qu'un huitième à Wim, hein,
qu'un
c'est
huitième
ça?
à Wim en 2019.
Il y a
voilà.
Trop de matchs qui perd en grand
qui
chelem et
m'échappe.
qui doit gagner.
Exactement. Et en 5-7, notamment, je me rappelle d'un match contre Kyrgios à l'Open d'Australie en 5-7, qui perd en 5-7 avec un Kyrgios certes très talentueux, mais très, très en montagne russe aussi. Et il avait eu des balles de match d'ailleurs, Hugo. Donc, ouais, sur ce format-là, il peut encore vraiment,
J'ai
il
pas
doit progresser.
de statistiques à la Constance, mais là, comme ça, le nombre de fois où je l'ai vu perdre, enfin, on l'a vu perdre en 5-7 en Grand Chelem,
Ouais.
et où je me dis, c'est pas possible, il va pas encore lâcher un match en 5-7 comme ça. Et là, on parle pas de match contre des mecs qui sont top 5, top 10, top 15. On parle. Alors,
c'est ça le problème.
Tu vas me dire, Kyrgios, oui. Kyrgios, c'est à part, il peut être classé 80e mondial et à Wim, vous chez lui. C'est un peu un cas à part. Mais globalement, quand même, je trouve que il y a des matchs qui lui échappent et qui ne devraient pas lui échapper. Il n'y a pas de raison, quoi. Donc ça, tu as raison, je pense que c'est un axe de progrès. Puis, de toute façon, ne serait-ce qu'en termes de points, hein, s'il ne fait pas mieux en grand chelem, ce sera compliqué d'aller chercher le top 20.
Allez,
de toute
au-delà,
façon, ouais.
Justement, ça peut lui faire un objectif. Puis la confiance engrangée là, sur cette fin d'année, va peut-être l'aider à passer ce cap en grand chelem pour 2024. Ça peut être un bel objectif pour le Français qui, effectivement, hein, vous l'avez souligné tous les trois, est encore jeune, hein, 25 ans. Hein, il a de beaux jours devant lui. On va pouvoir enchaîner sur notre débat du jour, puisque c'est lié à Hugo Humbert d'une certaine manière, puisqu'il a battu Stefanos Tsitsipas au troisième tour de ce Masters 1000 de Shanghai. Stefanos Tsitsipas qui traverse une période vraiment creuse dans sa carrière en 2023. Alors on va se demander pourquoi est-ce que le Grec n'y arrive-t-il plus cette année, et est-ce qu'il faut s'inquiéter pour lui? Parce que mis à part sa finale en début de saison à l'Open d'Australie, eh ben, il a beaucoup déçu ces derniers mois. Qu'on attendait voilà, hein, comme l'un des joueurs pouvant rivaliser avec le Big Three à l'époque quand ils étaient encore là, et pour aller chercher eh bien, un grand chelem. Il s'est fait doubler par d'autres. Alors, est-ce qu'il en est capable finalement? On l'annonçait comme un potentiel vainqueur de grand chelem, peut-être le premier, peut-être avant Medvedev ou avant Thiem notamment, et il ne l'a toujours pas fait. Et pire que ça, cette année, il plafonne complètement dans les tournois importants. Est-ce que c'est inquiétant pour le Grec, Arnaud?
Alors,
Pardon.
ah ouais, mais juste, et Maxime, je sais que tu as fait un joli papier
C'est vrai,
dessus,
merci.
donc je te laisserai en parler. Mais juste, moi, par rapport au match que j'ai pu commenter de lui ces derniers temps, ce que je trouve assez criant, voilà, je ne sais pas si vous partagez, mais c'est son manque d'intention, son langage corporel qui est très différent. Voilà, mais vraiment. Et qu'on a l'impression qu'en fait, c'est très décousu. Il fait 5 minutes avec l'envie et tu as l'impression que les deux jeux suivants, il perd cette envie. Ça se joue à très peu de choses, hein, on le sait très bien. Hein, c'est dans l'engagement, c'est dans l'intensité en fait, que l'on met, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment criant chez lui. En plus, et Anne, tu le soulignais, mais son discours à un moment, c'était « je veux gagner des grands chelems ». Je trouve que depuis un moment, et depuis son retour d'ailleurs, il nous avait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est lui qui disait « je vais y aller parce qu'il faut que je… » Enfin, pour rejouer quelques matchs. Il y a déjà dans son discours, je trouve, presque moins d'ambition depuis un moment. Ce qu'il affiche est différent. Et sur le terrain, ça se ressent énormément. Voilà, donc je voulais juste dire ça et laisser évidemment Maxime parler parce que tu as peut-être analysé le truc de ton côté avant.
Et moi, je vais juste dire un truc,
Vas-y, vas-y,
et
pardon.
après, tu pourras parler pendant un quart d'heure, Maxime.
C'est pas le but.
Mais je suis vraiment exactement de l'avis d'Arnaud. C'est-à-dire que quand tu le vois jouer, il est dans un espèce d'entre-deux. Tu peux pas dire qu'il balance les matchs, il est là, il
Non.
se bat, il essaye de gagner. Tu vois, hier, il perd 7-5 au troisième. En
Il manque un peu
revanche,
la flamme, il lui manque un peu ce
exactement,
truc.
il n'y a pas de feu sacré, il est là sans
C'est
être là.
fou.
Il est là sans être
Exactement.
là. Donc c'est quand même ça qui est un peu mystérieux, je trouve. Après, moi, je suis pas au quotidien avec lui, mais je trouve quand même, c'est vrai que son année 2023 est très décevante, mais ça fait quand même, je dirais, 2 ans maintenant, qui sur une petite glissade pas spectaculaire. Il n'est pas descendu, c'est pas Félix Auger-Aliassime qui va probablement se retrouver 50e mondial, alors qu'il y a un an, à la même époque, il roulait sur tout le monde. Le gap est gigantesque là pour le Canadien. C'est pas le cas pour le Grec, mais je dirais
Une pente douce.
depuis sa finale perdue à Roland contre Djoko, finalement, je crois que quelque chose s'est quand même cassé là vraiment. Et depuis, voilà, il reste top 5, top 10. Il y a des semaines, il joue vraiment bien, mais ouais, on sent qu'il y a un truc qui s'est cassé progressivement. Donc Maxime va nous détailler tout ça maintenant.
C'est
Il va nous
ça.
éclairer, il va nous donner les... Maintenant, Maxime va nous donner les
Et maintenant,
raisons.
on va comprendre.
Non.
C'est bon.
L'éclairage de Maxime.
Oui, voilà. Non, juste pour revenir sur ce que vous disiez, moi, j'étais frappé hier contre Hugo, comme vous disiez, par ces montagnes russes, c'est-à-dire que début de match, il n'est pas là. Le premier set, il n'est pas là du tout. Et puis, il y a une espèce de révolte dans le deuxième, il est plus hargneux, il a un regard plus noir, et puis ça refluctue dans le troisième. Donc, en effet, il y a un gros problème d'intensité. Maintenant, ce problème d'intensité, est-ce qu'il est dû à une... bulle qu'il avait créé, qui est en train de d'éclater un peu, ou qu'il a essayé de faire éclater et puis qui s'en veut d'avoir voulu éclater. On peut essayer d'analyser ça comme ça parce qu'il y a eu ces derniers mois, il y a eu des changements de cap assez incompréhensibles chez Tsitsipas. Il y a eu une volonté de s'affranchir du père, d'Apostolos, clair, puisque cet été, il avait emmené avec lui sur la tournée américaine seulement Mark Philippoussis et donc mis un peu de côté Apostolos. Et puis, il nous a expliqué là, il y a quelques semaines récemment, que en fait, il n'avait pas trouvé de connexion avec Philippoussis, que son père lui avait manqué. Qu'il avait perdu en, il avait senti qu'il perdait une partie de son identité tennistique quand son père n'était pas là.
C'est un sacré aveu d'impuissance, ça, quand même.
Oui, moi, ce qui m'a marqué, c'est une phrase. Il a avoué devant les caméras quand même de Tennis TV, donc devant les caméras du circuit, je n'ai pas réussi à m'adapter aux préceptes et aux nouvelles méthodes que Marc Philippoussis a voulu m'inculquer. Donc ça, pour moi, c'est la preuve qu'il y a un gros problème
Il a
de ce
pas...
point de vue-là.
Pardon Maxime, il n'a pas essayé très longtemps quand même.
Non, voilà,
Donc
exactement.
ça dénote quand même aussi un certain manque d'envie de sa part de faire l'effort peut-être de... Si tu essayes autre chose, essaye vraiment autre chose. Ne fais
Exactement.
pas pendant 3-4 mois ou 6 mois pour dire après, bon, non, finalement, je vais rester avec papa et qu'avec papa. S'il veut faire ça, il faut qu'il le fasse et qu'il le fasse à fond et qu'il sorte de cette zone de confort que c'est là pour le coup. On moque un peu souvent cette expression, la zone de confort. Mais là, c'est exactement ça avec
Ça,
Tsitsipas.
ouais.
Il est là-dedans et il a tellement peur que ce soit pire. Peut-être que finalement, lui, il faudrait qu'il tombe à la 50e place, qu'il ne gagne pas un match pendant 6 mois et qu'il fasse sa révolution. Peut-être
Il
que c'est
est
ça sa solution, lui.
trop fragile mentalement. Ça vient de là, plus que
Je sais pas.
tennistiquement. Parce
Je sais
qu'il a
pas.
souvent eu des déclarations où il
Ouais.
dit cette victoire, ça m'a cassé en deux, j'ai eu du mal à m'en remettre. Enfin, et il l'assumait, il a toujours eu un discours très transparent là-dessus. Mais
Il a une
aujourd'hui, il
extrême.
est dans un cercle vicieux, quoi.
Il a une... Je
Il est
sais pas
très
s'il est trop
émotif, donc.
fragile. Et il est très émotif, voilà. Il a une extrême sensibilité.
Après, c'est vrai qu'on
Extrême
a
sensibilité.
l'impression quand même qu'il a un peu. Ça m'avait marqué à Roland-Garros. Et il l'a dit à deux, trois autres reprises cette année. Comme s'il avait un peu accepté que, bon, voilà, bon, Djokovic, je le mets à part, c'est Djokovic. Mais Alcaraz, même qu'à 20 ans, c'est fini, il est déjà au-dessus de lui et de façon rédhibitoire, quoi. Il y a eu deux, trois phrases de Tsitsipas comme ça où il a fait vraiment allégeance à Alcaraz en disant ouais, de toute façon, t'es trop forte. Et... Alors, est-ce qu'il le pense vraiment? Je ne sais pas, mais à force de le répéter, il y avait eu ça à
Ouais.
Roland-Garros, il y avait eu ça quand il s'était joué, je ne sais plus, c'était à Madrid ou à. Je ne me souviens plus. Enfin, il y a eu au moins deux fois cette année où il a dit
Ouais.
ça à propos d'Alcaraz. Et oui, Alcaraz est très fort, mais en même temps, il a encore que 20 ans et tout n'est pas encore écrit. Donc, il y a une certaine forme d'acceptation de la situation, je trouve, de sa part,
Oui.
qui
Les
est
signaux
paradoxal.
envoyés à l'adversaire aussi.
Ah bah oui, c'est catastrophique.
C'est sûr, c'est sûr.
C'est
Mais
ça.
pire que ça, dans la presse grecque. Il y a quelques semaines, il a dit, on avait un espace, nous, la génération, la next gen, donc Medvedev, Zverev et moi, on avait un espace entre 2018 et 2020. Et maintenant que Sinner, il n'a pas dit que Alcaraz, il a dit Sinner, Alcaraz et Rune sont arrivés, eh ben, ils sont plus jeunes, ils en veulent plus. Moi, j'ai
C'est
trouvé
presque
ça hallucinant. J'ai trouvé ça
qu'ils sont
hallucinant.
plus forts. C'est presque qu'ils sont
Ouais.
plus forts. En fait, tu as presque l'impression aujourd'hui, enfin, en l'état actuel des choses, qu'il en parle comme des joueurs plus forts.
Exactement,
Et que c'est comme
c'est...
s'il avait un peu loupé le virage et que maintenant, c'était presque. C'est terrible. Mais ça fait un peu place aux autres, les jeunes. Et c'est vrai qu'ils sont monstrueux, mais c'est assez étonnant. Je
On
trouve ça
parlait
assez.
du...
Il n'y a que 25 ans, si tu y
Voilà,
passes,
on
quoi.
parlait du Hugo
Alors qu'en
Humbert, il a le
fait,
même âge.
il résume déjà sa carrière, en fait, d'une certaine
Ouais.
manière. Et
C'est fou.
défaitiste.
Oui, c'est
Ben
fou.
oui, alors que c'est un joueur qui en plus était. Moi vraiment, quand ils sont tous arrivés, enfin tous, les Medvedev, les Tsitsipas, etc., vers 2018, 2019, quand il avait 20-21 ans, moi, Tsitsipas, j'aurais mis ma main à couper presque, qu'il gagnerait un grand chelem et peut-être qu'il deviendrait numéro un mondial, parce qu'il avait à la fois le talent, il s'est vraiment très très dévoué à son travail. Je ne sais. Patrick Mouratoglou qui nous avait dit quand même qu'il avait rarement vu des mecs de 18-19 ans comme ça. Enfin, il était tellement fixé sur son objectif, il voulait être le meilleur, il voulait gagner des grands chelems, il voulait être numéro un. Et le décalage entre, on va dire, les intentions du tout début de carrière et ce que ça a donné, il y a quand même, c'est assez impressionnant malheureusement, parce que pas dans le bon sens pour lui.
Et il le disait, t'as raison, il le disait. Il y avait des interviews de lui où il disait, bon, le Big Three, ils sont sympas, mais faudrait peut-être faudrait peut-être leur
Ouais,
botter un peu les fesses.
il voulait
Il le
renverser la
disait.
table. Il était
Ouais,
très très mal.
il voulait renverser la table. Donc
Mais
c'est en fait c'est
je
ce
continue de
décalage
penser
maintenant.
quand même que c'est évidemment, c'est pas un match qui est un tournoi qui fait une carrière. Mais quand même, cette finale de Roland contre Djoko, où il mène de 7-0, on ne peut pas dire qu'il rate sa finale pour le coup, lui. Hein.
Non.
Il
Pas comme
rend.
à l'Open d'Australie.
Exactement. Mais ça qui est terrible, c'est que 2 ans après, enfin 1 an et demi après,
Ah bah,
une
il est
finale
loin
de
de
Grand,
son niveau de
une finale de
Roland-Garros.
Grand Chelem, tu aurais à la limite compris que ce soit le contraire, tu vois, le scénario inverse.
N'a pas progressé.
Mais cette finale 2021, je pense vraiment, lui a fait un tort considérable.
Ouais. Après, il est jeune, c'est ce qu'on se dit, hein. Enfin, il va rebondir, c'est pas possible. Enfin, il va après, je vois pas comment il
Bah,
pourrait
s'il y met la
accepter
volonté, il peut.
la
S'il y met
situation.
la
Mais
volonté.
il la remettra. Je pense que ça fait aussi partie parfois du processus. Enfin, c'est chacun un petit peu son chemin. Et lui, aujourd'hui, il y a une phase, en effet, de réflexion importante, et on le sent un peu paumé quand même. Moi, je crois que là, il est complètement paumé. Enfin, dans ton papier, Maxime, tu disais, tu parlais de son papa, entre parenthèses, si j'ai bien compris, presque nocif.
Ouais.
C'est comme
Mais
ça, hein. Mais tu vois,
vous l'avez vu
je
comme moi
parle.
hier, vous l'avez vu comme moi hier contre Hugo. Le père lui parle constamment,
Ouais, alors.
constamment et de détails tactiques.
C'est vrai, tu as raison, Maxime, mais il faut juste faire attention à une chose, c'est que les réalisateurs le savent, les journalistes le savent,
C'est vrai.
et du
Ouais.
coup, on le montre encore plus. Je ne
Ouais.
suis pas sûr que Ferrero parle moins à Alcaraz
Il
dans un
parle
match.
beaucoup, il parle
Il
beaucoup.
parle
Il parle beaucoup aussi,
énormément.
ouais.
Donc, mais sur le fond, je suis d'accord avec toi. De toute façon, il aura un abcès à crever tôt ou tard, et s'il ne le fait pas, je pense qu'il sera dans une impasse. Mais voilà, oui, c'est vrai qu'il parle beaucoup. Et tu as même l'impression qu'il parle tout seul des fois, tellement il parle.
Oui.
Mais je pense qu'on amplifie, enfin on, de manière générale, le monde du tennis amplifie le phénomène, notamment pendant les matchs, parce que c'est le papa de Stefanos.
Oui, parce qu'on le sait.
Ouais.
Voilà. Mais il y a peut-être une différence entre Ferrero et le père, donc et Apostolos, Tsitsipas, je pense. Mais là, pour le coup, c'est vraiment de l'appréciation et de ce qu'on entend parfois ou pas. J'ai l'impression que Apostolos est tout le temps sur le côté tactique, à essayer de lui donner des conseils tactiquement, alors que Ferreros, il y a beaucoup aussi d'encouragement et de voilà, et il embrouille moins son joueur, j'ai l'impression. Après, c'est un sentiment et je sais pas s'il est réel. Par contre, ce qui est réel, c'est un problème technique qu'il faut absolument évoquer quand on évoque quand on parle de Tsitsipas, c'est son revers. Il y a un gros problème
C'est ce que je voulais vous
de
demander. Est-ce qu'il doit
voilà.
aussi faire évoluer son tennis? Est-ce qu'il doit progresser? Est-ce qu'il n'a pas assez progressé là-dessus pour passer
Alors,
un cap?
c'est difficile de, enfin, travailler les points faibles, c'est pas ce qu'il y a de plus facile en tennis. Je me souviens que Roger Federer, en son temps, disait qu'il travaillait surtout ses points forts. Et pour justement être dans une zone pas de confort, mais de confiance. C'est-à-dire que quand tu travailles tes points forts vraiment beaucoup, après, tu es plus rassuré dans les moments de tension en t'appuyant sur ces points forts. Maintenant, il y a une grosse
C'est
faille.
plus facile. Attends, mais c'est plus facile à dire ça quand tes points faibles ne sont pas trop faibles.
Oui, voilà, c'est ça. C'est sûr. Mais en reparlant du revers de Tsitsipas, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est pas que son revers ne progresse pas, c'est qu'il a régressé. Le revers de Tsitsipas, quand il est arrivé sur le circuit et quand il a explosé en 2018-2019, alors certes, il y avait cette faille en slice, il a toujours eu cette faille en slice, c'est-à-dire qu'il ne varie pas, il y a toujours plutôt un revers recouvert qu'un revers slicé qui est très, très peu efficace, qui n'est pas rasant. Bon. Mais il avait de la puissance en revers, il développait beaucoup de puissance en revers. Son revers lifté sur terre battue, à Tsitsipas, il était long, il était lourd. Il a eu une opération au coude, ça il faut pas l'oublier, hein. Il a eu une opération au coude fin 2021. À l'intersaison 2021-2022. Et je trouve que depuis cette opération au coude, son revers est plus fragile et il le joue beaucoup plus court qu'il ne le jouait avant. Contre Hugo hier, j'ai été frappé par une chose, il n'attaque plus son revers. Et donc, son seul moyen d'attaque contre Hugo, c'était de se décaler constamment au coup droit et à l'excès. Et du coup, il ouvre totalement son côté coup droit. Si on joue Tsitsipas plein coup droit, il est très 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 fragile et il a tellement le réflexe de se mettre côté revers parce qu'il sait qu'il va être attaqué de ce côté-là, que il est beaucoup plus vulnérable au contre-pied, à ce que l'adversaire va faire. Il est beaucoup plus dans l'incertitude. Et tous ses adversaires maintenant le fixent de ce côté-là et il recule constamment et de plus en plus. J'avais été frappé à Roland-Garros contre Alcaraz. Évidemment, c'est Alcaraz, vous allez me dire, mais il avait été détruit pendant les deux premiers sets parce que Alcaraz, il avait cette méthode simple. Il fixait sur le revers, il l'enfonçait, il lui faisait perdre du terrain et ensuite il l'alignait. Or, Tsitsipas étant un joueur offensif, s'il peut plus attaquer, ça va aller mal pour lui. Donc, de ce point de vue-là, côté revers, il y a un gros travail à faire. Est-ce qu'il peut le faire physiquement? C'est encore une autre question. Mais avec Philippe Poussis, il me semblait qu'ils avaient travaillé au moins un petit peu le slice. Il y a eu une période à l'été 2022 où il slicait plus et de manière plus courte et c'était intéressant. Mais ce travail n'a pas été prolongé et là, j'ai l'impression qu'il est plus faible que jamais de ce côté-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est.
Non, c'est vrai que son revers, et notamment ce slice, quoi, qui limite vachement ses options quand même à l'échange. Et non, c'est très vrai ce que tu dis. Mais juste, moi, ce qui m'avait rendu optimiste quand même, c'est qu'après son opération, à la fin de la saison 2021, il était quand même revenu très vite à un très bon niveau. Donc tu te dis, je crois qu'il avait fait demi direct
À
à
l'Open
Melbourne.
d'Australie.
Bon, il joue toujours bien à l'Open d'Australie, hein, quasiment. Même quand il ne fait pas des super saisons, il fait demi au final là-bas. Mais donc tu te dis, le mec a quand même un niveau plancher qui est quand même très très élevé pour arriver à faire une demi de Grand Chelem dès qu'il revient. Mais le problème, effectivement, c'est que je trouve que depuis, allez, on va dire 1 an et demi, 2 ans, ouais, 1 an et demi, 2 ans, il ne rien dans, ni dans son jeu, ni dans son comportement, ni dans sa façon de se préparer, de s'entourer, ne montre une évolution, et pendant ce temps-là, les autres avancent, quoi. C'est ça le problème. C'est que personne ne va attendre Stefanos Tsitsipas, hein. Donc, il y a ceux qui sont plus forts que jamais, qui seront toujours plus forts que jamais, comme Djokovic. Le problème pour lui, c'est que depuis sa finale perdue à Roland contre Djoko, il y a un Alcaraz qui est arrivé, il y a un Sinner qui est arrivé, alors qui n'est pas encore au même niveau, il y a un Rune qui est arrivé, qui n'est pas encore au même niveau, mais qui sont déjà en train tous de passer devant lui, de façon plus ou moins significative. Donc c'est difficile aujourd'hui d'être super optimiste pour Tsitsipas. Après, ça reste un joueur ultra doué, qui a énormément de qualité. Et ce type de joueur, bien luné sur une quinzaine, avec des circonstances favorables, un pic de forme qui tombe au bon moment, ça peut être très 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 dangereux. Encore une fois, on parle d'un joueur qui était en finale d'un tournoi du Grand Chelem il y a quelques mois, au début de la saison. Donc c'est presque dur le constat qu'on fait aujourd'hui.
Oui.
On a
C'est
l'impression que...
vraiment le principe de la confiance et de la non-confiance aujourd'hui. Enfin, on est vraiment là-dedans, là, Laurent, quand tu dis ça. Moi, j'ai l'impression que ça peut recliquer avec les intentions, avec la motivation qui revient. Il pourra refaire des demi et des finales de Grand Chelem.
Ouais,
Moi,
avec un projet de jeu aussi, avec un projet de
Mais
jeu.
on est sur un truc plus structurel, là, ça que je veux dire. Au bout de 2 ans, 2 ans comme ça, ah, c'est pas juste un truc conjoncturel où, ah putain, là, j'ai perdu ma confiance là, depuis 3 semaines ou 3 mois. Il y a autre chose, quoi. Tu sens qu'il y a autre chose avec lui et que il faut qu'il arrive à passer au-delà de ça.
Et j'ai
Donc,
envie de dire, on est d'autant plus déçus aujourd'hui que moi, en début de saison, justement, avec cette finale à l'Open d'Australie, je rappelle qu'à ce moment-là, il y avait Philippe Poussis et Apostolos, hein, en tribune. Donc, il y avait un duo de coach. J'avais l'impression qu'il avait retrouvé le feu. Son parcours, sa quinzaine à l'Open d'Australie, il fait quand même un huitième contre Sinner, il me semble, où il gagne en 5-7. Il fait un très bon parcours quand même.
très
Hein.
très gros match, ouais.
Et demi contre Khachanov, enfin, c'est où il est très très solide. Bon, après, Djokovic étant Djokovic à l'Open d'Australie, c'est difficile. Mais voilà, il y avait des espoirs et tout s'est effrité au fil de la saison.
On espère qu'il va retrouver un cercle vertueux, hein, parce que manifestement, c'est la confiance de l'Open d'Australie, même avec une finale perdue, n'a pas suffi à le lancer bien en 2023. Il n'a pas battu un top 10 quand même.
Oui,
Petite stat
ça.
pour
Ouais,
cette année 2023, donc ça
c'est
veut
aussi
dire quelque
assez
chose quand
parlant.
même. C'est très révélateur.
Donc peut-être qu'il lui manque, voilà, une grosse victoire face à un top joueur pour se relancer et peut-être aller chercher une troisième personne, hein, puisque manifestement ça passe pas avec Philippe Poussis.
Le master sera peut-être important pour lui, parce que
Oui.
pour le coup, faire un bon master sans battre de top 10, c'est quand même assez compliqué. Donc a priori, il va y être, hein. J'ai
Oui,
pas le classement raide sous les yeux, mais je crois
il a
qu'il
moins de points à défendre qu'un rune, par exemple, ou des
Est
trucs comme
6 ou
ça.
7, je crois, à la raise. Donc, ça devrait le faire et ça peut être c'est un tournoi qu'il aime bien, un rendez-vous sur lequel il a souvent été bon. Donc peut-être que ça peut servir de marchepied pour 2024. Mais bon, on n'en est pas là encore.
Tout
Là,
sera bon à prendre, tout.
on a un point là où tout est bon à prendre. Bah, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas, parce que il a quand même un jeu très plaisant
Ah
et
oui,
le
on
Stefanos
adore.
Tsitsipas, top joueur, manque évidemment à ce tennis masculin. On va rester à Shanghai pour évoquer un peu plus largement cette tournée asiatique. Le tennis a fait son retour en Chine en ce mois de septembre-octobre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été assez illisible, le calendrier de cette tournée asiatique, avec le passage de Shanghai sur 12 jours pour s'aligner sur Cincinnati, sur le Masters canadien, et puis sur Indian Wells et Miami au printemps aux États-Unis. Monte-Carlo et Bercy sont encore des exceptions. Ils vont rester sur un format d'une semaine. Et Shanghai est passé à 12 jours, mais là, on est sur quelque chose encore différent, puisque il y a eu des finales qui se sont jouées en milieu de semaine à Pékin, notamment la semaine dernière. Le Shanghai a démarré au même moment, donc il y a eu aussi collision. Il y avait beaucoup de tournois en même temps chez les filles, chez les garçons. Est-ce que cette réforme sur 12 jours pour quasiment tous les Masters 1000 va créer des problèmes au niveau du calendrier? Parce que là, clairement, c'était quand même un petit problème de voir ces enchaînements, et puis ces finales en milieu de semaine, c'est particulier.
Si vous vous souvenez de Jean-Pierre Coff, mais j'ai un peu
Salut.
envie de
Et
dire
ses petites lunettes?
ses petites lunettes, son crâne dégarni comme le mien, et qui balançait du jambon blanc ou je ne sais plus quoi à travers le plateau de la rue en disant c'est de la merde. Je suis pas loin de penser la même chose quand même, parce que
Ben
là,
voilà.
bon, on a eu l'expérience de. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est comme ça pour Miami et Indian Wells, oui, mais c'est prévu comme ça dans le calendrier et ça mobilise 2 semaines finalement. Donc c'est encore différent. Mais là, je trouve qu'on, j'avais pas été convaincu au printemps à Madrid ou à Rome. Mais alors là, je dois dire que je trouve que c'est encore plus consternant. Parce qu'effectivement, on arrivait à jouer des. C'est quand même un peu triste. Le tournoi de Pékin, c'était peut-être un des plus gros tournois de l'année.
Sacré plateau, ouais.
C'était incroyable. J'ai jamais vu. Je crois que c'est Medvedev qui avait dit c'est le 500 le plus dingue de tous les temps. Medvedev a quand même joué Tommy Paul au premier tour. Il fallait être. Si tu n'étais pas dans les 10 premiers mondiaux, tu n'étais pas dans les 8 premières têtes de série. C'était un ATP 1500. Et qu'un tournoi comme ça ait offert une finale en plus de prestige, vraiment une super finale sur le papier quand même. Tu avais des demi, tu avais Alcaraz qui était là, Sinner qui était là, Medvedev qui
Allez,
était là.
demi, c'était génial. Demi.
Et tu te retrouves, pardon, avec une finale d'un tournoi de cette envergure-là le mercredi. Bah, je suis désolé, moi je suis peut-être. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on est peut-être trop tout ce vieux jeu, mais une finale, c'est pas un mercredi, quoi. Et encore moins en Asie où ils ont du mal à mobiliser du public déjà le week-end. Là,
C'est surtout ça, ouais.
Pékin,
C'est là-dessus.
c'était quand même très vide. Là, le. Faut pas être déprimé hein, quand vous regardez le Masters 1000 de Shanghai le matin là, parce que
C'est assez vide, hein.
l'avantage c'est que si le match n'est pas intéressant, vous pouvez vous amuser, essayer de compter le nombre de spectateurs en tribune. C'est largement faisable hein, si vous avez un plan suffisamment large, aucun problème, vous pouvez y aller. Donc ouais, c'est pas génial. On reproche parfois à certains publics d'être un peu trop chaud. Je pense à celui de Bercy par exemple. Je préfère tellement un public un peu excessif qu'un public absent. Des tribunes vides. Et moi, ça, j'ai vraiment hâte, c'est triste de dire ça, parce que ça fait 4 ans qu'on n'avait pas mis les pieds en Chine, et c'est un marché, on le sait, très très important pour le tennis mondial. Mais là, quand même, j'ai hâte qu'on revienne en Europe pour la saison indoor. C'est triste, mais moi, j'en suis là, quoi.
Non, mais t'as tout dit. Nous, je trouve ça très étonnant, quoi. Enfin, une finale le mercredi, c'est vrai que c'est pas vraiment dans les standards. Et surtout, en tant qu'organisateur de tournoi, tu sais quand même, t'as moins de chances d'avoir du monde. J'en ai des enfants, ok, mais à part ça, c'est quand même compliqué. Non, mais c'est très étrange. Et c'est vrai que dans ces tournois, moi, j'aimerais bien, enfin, ça serait intéressant, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais plus d'avoir le retour un peu des joueurs, de ce qu'ils en pensent
Oui, c'est vrai.
finalement maintenant.
Ah, bien
Parce
sûr.
qu'à la fin, nous, on observe, okay, on est observateur, on peut tirer quelques conclusions. On n'aime pas, on préfère pas, peu importe. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on puisse, et ça serait sympa de le faire, je trouve, sur un Deep Impact peut-être, d'avoir un joueur
Oui.
et de lui demander ce qu'il en pense de ces tournois à rallonge qui s'enchaînent comme ça avec ce manque de lisibilité assez criant aussi. Moi, je trouve que ça serait vraiment intéressant d'avoir leur retour à eux.
Oui, parce que c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que pour les joueurs, c'est à la fois physique, c'est à la fois mentalement, à mon avis, plus épuisant et physiquement plus facile entre guillemets qu'avant. C'est-à-dire que il y a des jours de repos dans les
Il y a plus
premiers
de
tours,
repos, ouais.
voilà, il y a des jours de repos dans les premiers tours de entre les premiers tours de ces Masters 1000 qui permettent de récupérer, mais en même temps, c'est tellement étendu sur une longue période, c'est presque comme un grand chelem, c'est presque une quinzaine, que mentalement il faut y être, quoi. Il faut rester dans sa bulle et faut, voilà. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que ni à Rome, ni à Madrid, ni à New Orleans, ni à Miami, t'as eu d'autres tournois ATP qui se terminaient avant le mardi ou le mercredi, comme c'était le cas pour Pékin. Et comme c'était le cas la semaine d'avant pour Chengdu, pour moi, ce calendrier est ubuesque. Je ne comprends pas pourquoi ils ont décalé les finales au mardi ou mercredi, alors qu'il n'y avait aucune justification pour le faire. Et en plus, les cas d'Indian Wells, Miami, Rome, Madrid avaient cet avantage au moins, c'est-à-dire que on considérait que c'était des 2 semaines banalisées pour les tournois ATP, il n'y avait pas d'autres tournois ATP, mais que par contre, pendant la première semaine de ces tournois-là, ou la deuxième semaine, pardon, il y
La
avait
deuxième.
des super challengers. Il y avait des super challengers avec des tableaux justement plus attrayants pour ce circuit secondaire-là.
Et
Donc en
plus
fait,
attrayant en nombre de points aussi. Si je dis pas de
exactement.
bêtises, d'ailleurs, il me semble que Hugo Humbert a gagné un challenger comme ça cette année.
Exactement.
Au moment, je sais plus si c'est Rome ou Madrid, mais il gagne un.
Oui.
C'est un 175, donc c'est un super challenger.
Ouais,
Tu te rapproches quand même en termes de. Tu gagnes le tournoi comme ça a été son cas. C'est quand même un très très joli pactole. Donc là, ils ont. Alors, ce que tu dis, c'est intéressant. Je ne sais pas si le fait de mettre Chengdu, Pékin et Astana, qui s'achèvent en milieu de semaine, avait été décidé dès le début de la saison, ou s'ils l'ont fait en réaction, peut-être à ce qui s'est passé ou pas passé, justement, au printemps sur terre battue. Très honnêtement, je ne me souviens plus du calendrier initial. Mais bon, tu sens qu'ils testent, ils cherchent. Je ne sais pas ce que ça donnera à terme, mais oui, c'est sûr que c'est pas. Mais bien sûr, hein, le plus important, c'est les joueurs, mais enfin, le public, les médias, ce n'est pas anecdotique non plus. Et tu vois, enfin, diffuser des matchs comme ça. Et même, il y a des repères tout cons. Moi, avant, à Masters 1000, je savais que le jeudi, c'était le jour des huitièmes de finale. Le vendredi, c'était les quarts. Le samedi, c'était les demi. Là, je n'ai plus aucun repère. Maintenant, quand j'allume Eurosport le matin, je me dis, attends, déjà, il faut que je réfléchisse quel jour on est. Je me dis, ah ok, donc là on est mardi. Donc mardi, ça va être quoi? Ça va être les huitièmes. Moi, je suis complètement perdu. Alors après, on s'en fout que je sois perdu. Et puis à la limite, c'est normal, c'est un peu nouveau comme système. Mais quand même, je trouve que ça nuit à la lisibilité globale et de ces tournois et du circuit. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment l'idée du siècle qu'ils aient
Bah,
trouvée.
surtout que les réformes sont aussi faites, ont été faites pour gagner en attractivité, pour essayer de réformer ce tennis,
Mais
pour
oui,
faire venir plus de spectateurs, plus
est-ce
de.
qu'ils se sont pas tiré une balle dans le pied? Je ne sais pas.
Je sais pas,
Bon,
mais
faudra attendre un peu sur la durée, mais
pour
pour
revenir
l'instant.
au cas spécifique chinois, j'aurais probablement dû me mettre à la page, mais nous qui suivons quand même le circuit intensément, j'ai été au courant de cette finale le mardi. Je m'en suis rendu compte en fait que la veille du début du tournoi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Alors, si des suiveurs comme nous sont déjà un peu déstabilisés par ça, vous imaginez le grand public. C'est pas possible. Et ce que tu disais de manière très intéressante tout à l'heure, Anne, c'est que ça se télescope. T'as la finale de Pékin le mercredi et t'as le début du Masters 1000 de Shanghai. C'est ubuesque, c'est ubuesque.
Et dis papa qui doit être décalé aussi. Non mais franchement.
Mais voilà!
C'est du grand n'importe quoi.
C'est vrai que ça ressemble à rien.
Terrible.
Bon, eh ben, on espère que peut-être ils remettront ça en cause, ou alors que on nous dira qu'on est vieux et con et qu'on ne sait pas s'adapter. Peut-être que les joueurs aiment bien ces formats-là. Ce
C'est
sera
peut-être vrai,
intéressant.
hein.
Ce sera
C'est peut-être
intéressant
vrai.
effectivement de leur poser la question une prochaine fois, peut-être avec le prochain invité de Deep Impact. On va s'arrêter là-dessus, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. C'est fini pour cette semaine. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi. Vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités tennis. D'ici là, suivez l'actu sur eurosport.fr et sur nos antennes. Shanghai, ça continue toute la semaine. Merci, messieurs.
Salut,
merci Anne.
Merci Anne, merci à tous.
Bye bye.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.